des livres plein les oreilles. Bonjour à vous qui nous écoutez peut-être en balado, peut-être via CKVL ou bien sûr via Canal M, notre site où vous pouvez écouter toutes les émissions quand bon vous semble. Celle-ci, des livres plein les oreilles, est diffusée à partir du jeudi à midi et ensuite elle se retrouve en ligne. Aujourd'hui à l'émission, voici une femme qui ne voulait pas d'enfants. Ratée. Elle en a eu deux. D'autant plus qu'elle était faite pour être la mère de ces deux garçons. Autistes, ces deux extraterrestres, comme elle les appelle. Elle est faite solide, cette femme. Elle est pleine d'humour, elle est pétillante, elle est volontaire, elle est enthousiaste, elle est ingénieuse, elle est pleine de gratitude envers la vie, malgré ces deux gars si différents l'un de l'autre dans leurs différences. J'avais reçu Guylaine Gay, puisque c'est d'elle dont il s'agit, il y a 4 ou 5 ans, à l'occasion de la parution du livre « Deux garçons à la mer ». Le livre était alors paru en audio accessible via le SQLA et lu par une ou un bénévole. Mais cette fois-ci, dans le catalogue de Vues et Voix, c'est elle, Guylaine Gay, qui a lu son histoire, que dis-je, son épopée avec ces deux gars. C'est une véritable aventure quotidienne qu'elle n'échangerait pour rien au monde. Je vais m'amuser à lui poser certaines questions que je lui avais posées à l'époque. Allez savoir, et si ce n'était pas la même réponse. Et puis aussi, à l'émission, il y aura des nouveautés du côté des livres audio faits en France, mais disponibles partout, et notamment un livre audio qui, au départ, est un livre et un film inoubliable que nous avions évoqué à cette émission avec Lise Dion, L'Armée des Ombres. Un film fantastique avec Simone Signoret, pour ceux qui s'en souviennent, Paul Meurice, Lino Ventura et tant d'autres. Enfin, eh bien, la Normandie a abrité un nombre incroyable d'artistes en tout genre, peintres, comédiens, auteurs, qu'on pense à Claude Monet, à Courbet, Victor Hugo, Bourville dans un genre différent, et un certain Flaubert dont la Normandie célèbre cette année le 200e anniversaire de naissance. Alors ça m'a donné envie d'aller écouter du Flaubert. Et vous ? On va aller voir ce que les catalogues nous réservent. Juste avant de rejoindre l'ami Guylaine Gay, cette chanson qui s'inscrit dans le monde de Benjamin, jeune autiste. Elle s'appelle la chanson « Prépare ta valise ». Elle est signée Daniel Boucher, accompagnée par l'OSM. C'est très très beau.
C'est le mois de l'autisme qui commence et on vous offre encore une magnifique chanson réalisée grâce à des dizaines de bénévoles. Merci de votre générosité.
Prépare ta valise, oublie pas tes amis, on part. On va suivre ton vent, le suivre à coup d'ici maintenant. On jambette le temps, on décore la route de nous. On se bricole un moment, juste pour nous, car si personne ne t'approche, j'entends les reproches. Décollage dans 10, prends ta tuque et de la broche. Et si on marchait ensemble sur la ligne de l'horizon, on plante un drapeau et qu'on déclare, c'est notre maison. Pourquoi pas s'amuser à inverser le ciel, la mer, la nuit, le jour. Quelque chose t'a placé sur mon chemin. Et si c'était l'amour, si c'était l'amour énigmatique, mais l'amour quand même. Prépare ta valise, oublie pas tes amis, on part. Juste nous. Je réponds présent, je serai ton chauffeur de char. Juste me dire où. Et si on marchait ensemble sur la ligne de l'horizon, qu'on y plante un drapeau et qu'on déclare, c'est notre. notre maison. Pourquoi pas s'amuser à inverser le ciel, la mer, la nuit, le jour. Quelque chose t'a placé sur mon chemin. Et si c'était l'amour, si c'était l'amour. Dans une ruelle, s'amuse à jouer aux super-héros, tous invincibles. Ça fait longtemps que tu joues sans eux, ils t'ont pas vu, mais c'est normal. T'as encore pigé l'homme invisible. Prépare ta valise, oublie pas tes amis, on part, juste nous. On va suivre ton vent. Le suivre à coup d'ici maintenant, jusque n'importe où, juste nous.
Je mettrai toute la faute de ce rêve complètement absurde sur le dos des hormones et du poulet frit que j'avais mangé avant d'aller au lit ce soir-là. J'étais au ciel et je buvais une tasse de thé vert. Impensable, je n'aime pas le thé vert. Mon grand-père Léo, décédé depuis plus de 30 ans, se joignait à moi et me demandait « As-tu peur? » « Oui. » « Tu vois toutes les âmes qui font la file là-bas? » « Oui, je vois, grand-papa. C'est la première fois que je voyais des âmes. » « Ce sont les âmes des enfants qui font la file pour que tu deviennes leur mère. » J'étais bouche et bedombée. Mon Léo. Qu'on m'apporte deux cheeseburgers all dress, une rondelle d'oignon et une racinette bien froide. J'ai survécu. J'avais accouché. Moi, si peureuse. Moi qui perds connaissance avant une prise de sang. J'avais accouché. Moi, comme une guerrière, comme une amazone, comme une maman. Pendant qu'en bas, on s'affairait à recoudre les dommages collatéraux, en haut, je faisais connaissance avec mon bénéfice blond. Fini les douleurs. Je n'avais d'yeux et de cœur que pour cette petite âme qui avait fait la file pour que je sois sa maman. J'avais été choisie et j'allais honorer ce choix. Moi.
Ah, mon Léo. Léo du nom du grand-papa et de ce rêve tellement touchant. Bonjour, Guylaine Gay.
Bonjour.
Guylaine, vous vous souvenez, je vous avais invité il y a quelques années, pour le même bouquin d'ailleurs, quand il avait été enregistré par une voix bénévole pour les personnes non-voyantes. Vous vous souvenez
oui,
de ça?
Je me souviens très bien.
Et c'était un jour de tempête de neige. Et donc, malheureusement, vous n'aviez pas pu venir avec vos garçons parce que l'un des deux, je pense que c'est Clovis ou c'est Léo, oui. a du mal à dealer avec les tempêtes.
Ouais,
ou du moins
la météo,
avait.
Encore aujourd'hui. La météo influence beaucoup l'humeur du jour, disons.
Mm-hmm.
Ouais. Alors, je n'étais pas allée en studio cette journée-là, mais on s'était tout de même parlé.
Alors, au moment où le livre sort, Deux garçons à la mer, ils ont quel âge, Léo et Clovis?
Lorsque le livre est sorti, c'est en 2014, donc ça fait 7 ans. Léo avait 12 ans, allait avoir 13 ans et Clovis avait été tout petit.
Donc là, on parle de grands garçons, là, on n'est plus... Parce que je me suis amusée, évidemment, en préparant cette entrevue. D'abord, j'ai relu le bouquin, mais je voulais aussi écouter les questions que je vous avais posées, Guylaine, et je me suis dit, mm-hmm. il y en a quelques-unes que je vais lui reposer pour voir si la réponse sera la même ou non. Par exemple, vous aviez peur, vous me l'aviez dit, mais c'est également écrit dans le livre, vous aviez peur que votre Clovis, donc je rappelle évidemment que vos deux garçons sont autistes, je l'ai précisé évidemment en début de cette émission, vous aviez peur que votre Clovis ne parle jamais. Est-ce que c'est le cas?
Ben oui, je pense que je le savais déjà, parce que quand on m'a dit que Clovis était non-verbal, j'ai suivi le flow, mais après beaucoup de lectures quand même, après le diagnostic, parce que Clovis a eu son diagnostic très jeune, à l'âge de 3 ans, donc... C'est sûr que j'ai fait beaucoup de lectures, mais moi, très, très vite, là, je me suis habituée à ce diagnostic-là. Mm-hmm. Je l'ai apprivoisé,
oui.
Puis j'ai fait fi. J'ai pas vraiment vécu de déni là, face
non,
à ce
ça.
Diagnostic-là. Donc, et non, il est toujours non-verbal à 18 ans.
Bon,
donc, le prognostic était bon.
À l'époque, vous m'aviez dit qu'il pouvait compter jusqu'à 30 en hébreu. Est-ce qu'il peut compter jusqu'à 100 maintenant?
Non, toujours, sans jeu de mots, mais j'ai perdu le compte. Il peut encore compter. Clovis écoute beaucoup de trucs sur YouTube, puis il est très, très intrigué par les langues, parce qu'il y a quelque chose de très musical dans les langues. Donc, Clovis écoute toutes sortes d'émissions, mais il aime beaucoup l'émission Sesame Street. Et il l'écoute en hébreu, il l'écoute en espagnol, il l'écoute en allemand. Donc, sur YouTube, il retrouve... Clovis aime trois choses sur YouTube. Le Sesame Street, les comédies musicales en tout genre et les catastrophes naturelles. Parce que évidemment, à l'œil, c'est très stimulant les images qui défilent. Mmh. Donc, c'est les trois choses que Clovis regarde.
C'est fou quand même. Être non-verbal et capoté.
Ouais.
Pour les langues, c'est...
Ben oui. Ben là, c'est sûr que là, les gens entendent non-verbal. Donc, Clovis ne parle pas, il ne formule pas de phrases de façon...
Mais il communique.
Ben, il communique, oui. Puis, il fait beaucoup d'écholalie. L'écholalie, c'est qu'il peut répéter de façon parfaite. Par exemple, un segment d'émission ou une chanson de comédie musicale ou un petit bout de Sesame Street où ça compte, par exemple, en hébreu. Donc, l'écholalie, ça le dit écho. Il va redire exactement dans la même forme et avec la même voix, les mêmes intonations, ce qu'il vient d'entendre. Donc, c'est de l'écholalie. Et ça, Clovis en fait beaucoup.
Et j'ai choisi l'extrait de ce rêve avec grand-papa parce que je trouvais tellement beau cette affaire. Tu vois les âmes là-bas, ce sont celles des anges. Ah, j'ai trouvé ça joli.
C'est un vrai rêve que j'ai fait.
Oui, hein?
Quand je suis tombée enceinte de Léo, moi j'habitais au Nunavut, j'habitais à Iqaluit avec le père de mes garçons, Stéphane. Puis j'étais très, très... Moi, j'ai jamais vraiment voulu d'enfant. C'était pas
dans votre bagage, c'est ça.
Je pensais pas avoir l'instinct maternel. Bon, ben finalement, je me suis trompée, je l'ai. Mais j'avais vraiment peur, moi, de devenir mère. Pour toutes sortes de raisons. C'est pas quelque chose qui m'appelait nécessairement. Puis j'ai fait ce rêve-là, dans lequel mon grand-père Léo, qui est décédé il y a longtemps, comme je l'ai dit dans l'extrait, me disait que les âmes faisaient la file pour que je sois leur mère. Puis quand je me suis réveillée ce matin-là à Iqaluit, au Nunavut, j'ai fait « bon, ben ça doit être un rêve prémonitoire ». Puis après ça, je ne me suis pas reposée de questions. Je dis « bon, ben on va passer au travers l'aventure ».
Vous dites aussi, parce qu'il y a plein de belles choses joliment dites dans votre livre, Guylaine. Et puis bon, moi, je suis très, très sensible à l'écriture. Parfois, les choses jolies sont les choses les plus simples. Comme par exemple, quand vous dites « j'apprends à parler l'autisme
».
Avez-vous l'impression de vous améliorer tous les jours?
J'ai pas encore mon bac complet en autisme.
Ni la maîtrise.
ni en compréhension de l'autisme. Non, je j'aspire même pas au doctorat parce que bon, il faut rester humble, hein, comme j'apprends tous les jours. Mais non, évidemment, l'autisme étant une condition qui est vraiment très mystérieuse et qui change. Tu sais, les garçons vieillissent, donc ça change comme n'importe qui, mais bon, la puberté a amené quand même son lot de bouleversements et questionnements et revirements rocambolesques. Mais bref, on apprend à tous les jours. C'est vraiment au jour le jour.
Oui. Et d'ailleurs, vous dites que votre vie quotidienne est une aventure. Hein? C'est comme une épopée.
Ouais.
Parce que tout,
vous,
là, ça ne peut pas être tous les jours pareil, même si votre quotidien est scindé en parcelles précises.
Hein? Alors, absolument. Nous, on est des gens absolument routiniers.
Oui.
Tu sais, ça prend des routines pour que le quotidien se passe quand même assez bien, parce que mes garçons, c'est vraiment des petites bébites de routine. Là, ça prend un encadrement, ça prend... on a un calendrier sur la porte d'entrée où est-ce qu'on fait des X, où on dessine des trucs. Bon, tu sais, pour nous, le calendrier, pour les garçons, c'est vraiment un repère qui est très, très important.
Mmh.
Un repère visuel, un repère temporel aussi, parce que le temps, c'est une notion qui est très abstraite pour nous, donc encore plus pour eux.
Oui.
Donc, c'est sûr qu'on a des outils, mais ça change avec avec les années, puis avec les nouveaux défis qui se présentent à nous quand même assez régulièrement.
D'ailleurs, vous aviez dit que, bon, vous m'en aviez parlé à ce micro, mais aussi dans votre livre, c'est clair, hein, toutes ces aventures qui peuvent arriver. Mais maintenant que ces garçons-là sont justement plus vieux, en dehors des soucis qui mènent à cette... en fait, qui sont... amenés par l'adolescence et par le fait que ce sont des jeunes hommes, ils seront des hommes.
Oui,
ça va être encore... Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez? Parce que longtemps, j'ai entendu dire que pour les jeunes, pour les enfants autistes, que les parents redoutaient beaucoup cette période-là.
Oui.
Qu'est-ce qui va se passer avec vos garçons maintenant qu'ils ont cet âge-là?
Bon, évidemment qu'il y a un truc qu'on appelle l'inconnu, hein, qui est existant pour tout le monde, surtout en ce moment.
Oui.
Mais bref, c'est chaque période apporte vraiment un lot de défis, d'inquiétudes, de joie et de bonheur aussi.
Oui,
on n'est pas seulement
c'est
dans la comédie dramatique, là. Mais bref, c'est sûr que l'avenir de mes garçons, c'est préoccupant parce que c'est pas des jeunes comme tout le monde.
Mais non.
Ça prend beaucoup
de... Et on parle pas tous autistes.
Non, c'est ça.
Non, mais vous comprenez, je veux dire, tout le chemin que vous avez fait, et on peut pas en vouloir aux personnes, parce que, comme vous l'avez dit vous-même, Guylaine Gay, on n'y comprend tellement pas encore grand-chose à cette condition-là que vous...
Heureusement, ce que j'aime en ce moment, ce qui se passe, c'est que on parle quand même plus de neurodiversité. Il y a quand même plus de personnes autistes qui parlent elles-mêmes de leurs conditions, parce que c'est vous, un parent comme moi, qui en parle, mais moi, je suis pas autiste. Donc, c'est vraiment eux les meilleures personnes pour en parler. Bon, Clovis, évidemment, comme il est non-verbal, c'est un peu plus difficile pour lui de parler de sa condition. Mais mon Léo, lui, qui a 20 ans, qui parle, qui connaît très bien sa condition, ben je trouve que lui, tu sais, il peut plus informer les gens.
Ah oui, à ce point-là.
Les sensibiliser. Ben, oui. Quand on, ben là, on va plus dans les salons du livre, là, mais quand on y allait, ben, Léo, ça lui faisait toujours plaisir de raconter
gens
c'était quoi sa condition, puis tu sais que Léo, c'est un passionné de dessin, donc il parlait de ses dessins, etc. Donc, je trouve quand même bien que c'est les meilleures personnes pour parler de leurs conditions, puis j'espère que dans les années à venir, ils auront encore plus de place, plus de tribunes. Peut-être que les plateaux de travail seront adaptés aussi à leurs particularités, notamment sensorielles, notamment les interactions avec les autres. Donc, tu sais, c'est vraiment des personnes qui ont beaucoup, beaucoup à offrir, mais c'est aussi à nous à rendre et la vie et les plateaux de travail et les relations interpersonnelles plus inclusives aussi. Donc, j'ai de l'espoir, j'ai des inquiétudes, évidemment, parce que je suis une mère, mais j'ai aussi beaucoup d'espoir parce que plus ces gens-là, on va les voir, on va les entendre parler de leur propre histoire, ben ça va ouvrir aussi notre esprit
bien sûr.
À ce que vivent. Là,
à ce que vivent et à nous, à améliorer notre compréhension aussi. Vous savez, quand par exemple, vous dites dans le bouquin que lorsqu'ils communiquent, c'est pas pour pour nous, finalement, c'est pour eux, quoi. C'est pour se faire comprendre. C'est parce
que... C'est sûr. Parce que nous, on est tellement abstrait, puis on est tellement compliqué, puis on a tellement de dédales, puis on est tellement... Ah. Tu sais, eux, là, mon fils Léo, là, c'est une particularité, c'est qu'il dit toujours la vérité pour vrai, parce que le mensonge, c'est ultra complexe.
Bien sûr.
Il n'est pas capable, lui, de dealer avec l'ultra complexe. C'est pas abstrait. Donc, nous, on est capable de faire ça, puis on est capable de mentir, puis on est capable de... T'sais, c'est long pour nous, des fois, de passer du point A au point B.
Oui.
On fait plein d'affaires, puis on fait des petites manipulations entre ça. Mais pour Léo, c'est de A à B, c'est très court.
Direct. Guylaine, je vous propose à vous, et surtout d'ailleurs à nos auditeurs, d'écouter un autre extrait de ce livre, donc « Deux garçons à la mer », lu par son autrice, Guylaine Gay, avec qui je m'entretiens en ce moment, qui est la maman de deux garçons exceptionnels, deux extraterrestres qui vivent avec l'autisme.
Je me considère chanceuse d'être la mère de mes enfants et je suis convaincue que nous nous sommes choisis. S'il y avait un questionnaire à remplir dans le coin du ciel où les petites âmes attendent leurs futurs parents, mes enfants ont sûrement coché la case « mère aimante » avec un brin de folie. Ils m'ont eu, je les ai. Sans être autiste moi-même, j'ai l'impression de vivre un peu dans une bulle, d'habiter une autre planète. Mes extraterrestres à moi ne sont pas méchants, pas compétitifs, pas agressifs, pas comme les autres. Quelque part, ça me rassure, cette sensation que nous sommes absolument contre-performants et que nous inventons notre vie. Nous célébrons la différence. Ceux qui ne sont pas contents peuvent bien manger de la marge. Quelqu'un m'a demandé si j'avais déjà imaginé mes fils normaux. J'ai souri. Non, je les aime tels quels. Certains apprennent à parler espagnol. Moi, j'apprends à parler l'autisme. Une langue qui me fait voyager dans un pays que je ne connaissais pas. Un pays qui n'existe sur aucune carte. Ma famille est un continent à découvrir. Le grand voyage à la rencontre de mes enfants.
Est-ce que vous êtes tannée parfois qu'on vous demande, Guylaine Gay, bon, on sait que je ne l'ai pas reprécisé, mais en dehors d'être une maman et une autrice, vous êtes évidemment l'humoriste que l'on sait, donc vous êtes une femme bourrée d'humour, d'ailleurs un humour que j'adore. Est-ce que la femme d'humour qui fait tout bien ou presque pour ses deux petits, est-ce qu'elle est écœurée parfois de se faire dire, mais voyons comment tu fais, est-ce que tu es heureuse, elle t'a l'air toujours souriante? Est-ce que ça vous tape parfois? Est-ce que vous avez envie de dire « Oh, lâche-moi avec ça! »
Non. Ça fait vraiment partie de... Tu sais, ma famille, moi, c'est vraiment un tout. Puis, tu sais, moi, je m'oublie vraiment pas là-dedans. Là. Tu sais, j'ai la chance de pas avoir un... Tu sais, j'ai un aura qui me permet d'aller marcher tous les jours, d'avoir mon maman toute seule, parce que chez nous, là, il n'existe pas vraiment... de silence, hein, comme Clovis est un jeune homme très bruyant. C'est sûr qu'à un moment donné, moi, j'ai besoin de silence, donc j'ai la chance d'aller marcher tous les jours. Mais non, je ne suis pas tannée parce que ça fait vraiment partie de ma vie. Et puis, tu sais, j'ai la chance de faire de la radio, j'ai la chance de faire de la télé. Donc, quand je suis sur un plateau, ben tu sais, c'est Guylaine qui est là. Puis même quand je suis avec mes enfants... T'sais, premièrement, personne ne m'appelle maman ici. Léo m'appelle Guylaine, Clovis ne m'appelle pas. Donc, je fais partie de ça.
Mais
c'est mon chum qui est mon grand complice, avec qui on passe beaucoup de temps ensemble. Mais ça ne me tanne pas parce que de toute façon, je n'en parle pas tout le temps. C'est sûr que je reçois beaucoup de courriels. Hein. Il y a beaucoup de parents qui m'écrivent tout ça, puis ça me fait toujours plaisir, puis je réponds à tout le monde. Des fois, j'ai pas de réponse, mais tu sais, je peux peut-être les aiguiller vers quelqu'un qui pourra leur donner une réponse. Mais bref, je me sens privilégiée de faire partie d'une fratrie de parents qui sans tous nous connaître.
Okay.
Je sais qu'il existe un fil entre nous parce qu'on connaît nos réalités sans se le dire. T'sais.
Oui,
donc,
je comprends.
Ça me fait toujours plaisir quand les gens m'en parlent.
Alors l'humour, c'est évidemment c'est une arme, mais entre autres, moi, ce qui m'a fait beaucoup rire dans le livre, ce sont ces inscriptions sur les chandails de vos fils au moment des sorties. Je ne sais pas si c'est encore vrai, mais enfin, ça l'était à l'âge qu'ils avaient à l'époque. Ouais. Alors, il y en a deux adorables. Au sujet de mon autisme, demandez à ma mère. Ça, exact. Je trouve ça. Non, mais c'est bourré d'humour. C'est ça, c'est bourré d'humour et d'un détachement qui fait du bien et qui fait vraiment, rire, en tout cas, en ce qui me concerne. Et puis l'autre, mon autisme n'est pas contagieux, mais mon sourire, oui. Wow.
Ouais. Ah wow, oui, ben j'adore. C'est des chandails que Clovis portait surtout, parce que comme Léo était verbal, c'était peut-être plus facile de... Puis Léo avait moins de manifestations stéréotypées comme marcher sur la pointe des pieds ou faire du flapping, agiter ses mains là, de façon très dynamique. Léo fait pas ça, tandis que son frère, oui. Donc, les T-shirts, c'est vraiment Clovis qui les portait pour atténuer un peu le regard des autres là, quand ils nous voyaient, par exemple, quand on allait jouer au bowling. Mmh. Ben là, Clovis qui court partout dans l'allée, évidemment que le chandail, ça répondait à beaucoup de questions de gens qui nous entouraient à ce moment-là. Mais là, c'est sûr qu'ils sont grands. Ils ne portent plus ce genre de
t-shirts. Non, j'imagine.
Mais Clovis fait encore beaucoup de flapping, marche encore sur la pointe des pieds, puis mesure maintenant 6 pieds. Hein? Donc, le regard a changé, mais je vous dirais que les gens nous regardent encore plus. Parce que quand on voit ce genre de comportement-là chez un petit enfant, c'est comme un peu normal. Hein,
oui, mais sur un grand 6 pieds.
Un garçon avec la barbe, là, les regards sont plus... je vois les sourcils un peu plus froncés, comme mon Dieu. C'est que, là, c'est sûr que ça paraît plus que Clovis a une condition.
Oui.
Mais là, on ne porte plus de chandail. Là. Je pense que Clovis, de par ses manifestations, lui-même explique un peu qu'il y a une condition.
Ouais. Alors, on ne parle plus de chandail, mais pour finir, parce qu'il ne nous reste plus qu'une petite minute, Guylaine Gay, pour dire à quel point c'est bien écrit. J'adore cette phrase. Clovis, affectueux, il se jette dans mes bras comme moi dans la crème glacée. Je suis folle de la crème glacée. Clovis est fou de moi. C'est donc lui le récipiendaire de mes débordements affectifs. Belle plume, Guylaine. Vous en parlez bien. Je dois dire que je l'avais déjà pensé en lisant le livre sur papier. Je l'ai repensé en vous écoutant le lire, puisque je rappelle qu'il est maintenant disponible en version audio sur le catalogue livreaudio.vusezvoix.com. Mais j'en sais... Je ne peux pas dire que je commence à parler l'autiste ou l'autisme, mais lorsque je vais croiser des enfants autistes, je vais forcément penser à vous et je vais forcément faire attention à des choses à faire ou à ne pas faire avec cet ou ces enfants-là. Merci beaucoup, Guylaine Gay.
Merci et on se dit à une prochaine alors.
À une prochaine avec un autre bouquin peut-être.
Je suis en train d'écrire la suite là, de Garçon à la main qui paraîtra l'an prochain.
D'accord. Alors, on va se revoir chez Vues et Voix. Salut, Guylaine.
Bye bye, merci beaucoup.
De rien. Des livres pleins les oreilles, la suite. Alors, en seconde partie de cette émission, des livres pleins les oreilles, des nouveautés de bouquins qui parlent à écouter. Elles nous viennent de chez Gallimard, Écoutez Lire, Audiolib ou encore Lizzy, et notamment un classique contemporain que j'avais très envie d'entendre en audio, c'est L'Armée des Ombres, ce formidable bouquin, un film marquant sur la résistance française, la trahison, la clandestinité, la peur. D'abord, un livre de Joseph Kessel, porté à l'écran par Jean-Pierre Melville, en 69 avec Lino Ventura, Simone Signoret, tout ça. Et puis, il y avait autre chose dont j'avais envie de vous parler. Bon, moi, je viens de Rouen, qui est en Normandie, la ville au Sans-Clocher. Et cette ville a abrité des personnalités célèbres, dont Flaubert. Flaubert qui on célébrerait en cette année 2021 son 200e anniversaire de naissance, si bien que en Normandie, pas seulement à Rouen, on a décidé de mettre sur pied Flaubert 21 et de célébrer en grand pendant presque 6 mois. Alors je me suis dit, il doit y avoir des bonnes histoires écrites dans le français de l'époque, c'est toujours un régal à écouter, non ? Alors avant de parler de Flaubert, mais aussi de Maupassant avec l'ami Mathieu Farcy, quelques nouveautés. Celle-ci nous vient de Gallimard, la collection Écoutez lire. C'est un livre que j'ai vraiment adoré. Ça s'appelle La question qui tue. C'est de Sophia Aram, c'est elle qui fait la narration. La question qui tue, perfidies ordinaires, maladresses et autres micro-agressions. Vous savez, là, le genre de petites phrases qui tuent lorsqu'on est en compagnie d'amis ou la famille, du style je peux toucher tes cheveux? Non. Ou alors, est-ce que vous fêtez les anniversaires dans ton pays? C'est le genre de question. Ben oui, niaiseux, c'est sûr qu'on fête les anniversaires. Ou alors, oh, t'as pas l'air gay pourtant. Hein? Il y a aussi quoi? Oh, ben écoute, hein, l'important, c'est que tu te sentes bien dans ton corps. Hein? Oh, celle-là, elle est dure, elle fait mal. Et puis alors, là, la pire sûrement de toutes pour nous les femmes, c'est t'as tes règles ou quoi? Oui, oui, ce genre de phrases très élégantes qui mettent... Alors, ce livre en est plein, vous savez, ces remarques, d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit dans le résumé, ces remarques aux faux airs amicaux qui charrient une tonne de préjugés. Elles sont pesantes précisément parce que les personnes qui les prononcent sont rarement conscientes de leur énormité et des effets qu'elles peuvent produire. C'est pourquoi il est important de prendre la mesure de ces micro-agressions et pourquoi pas d'en rire. L'idée n'est pas d'organiser le plus grand procès d'intention de l'histoire, mais de continuer de militer pour la tolérance, afin que chacun puisse vivre paisiblement ses différences. Et puisque ça ne suffira pas que ces questions qui tuent nous fassent hurler, sourire ou pleurer, finalement, peu importe, l'idée serait simplement de ne pas s'y habituer. Voici un extrait éloquent de « La question qui tue » de Sophia Aram.
Ce soir-là, je dînais chez des amis à Boulogne, en compagnie d'un couple d'avocats flambant neufs dont l'assurance et l'éloquence irradiaient la pièce. Je tenais mon rôle de comédienne, fraîchement débarquée de sa banlieue, en faisant le pitre. Nous occupions la scène dans une sorte de trio improvisé, comme savent le faire toutes les personnes qui ont envie de se faire remarquer. Tout se passait bien, donc, jusqu'à ce que, porté par un élan de convivialité, le jeune avocat secoue sa mèche pour me demander, un peu gêné, « Dis-moi, toi qui habites Trappes, t'aurais un moyen de me trouver un peu d'herbe ?» Une requête qu'il devait considérer comme banale de la part d'une personne domiciliée à Boulogne à une autre domiciliée à Trappes, mais qui, bizarrement, déclencha chez moi une colère qui me plongea dans un mutisme gênant. Puis, dans un contretemps vertigineusement embarrassant, je trouvai la ressource pour lui demander « Et toi, puisque t'habites Boulogne, tu pourrais me trouver une pute ?» Ce fut un effroyable bide. Il résulta de cette déclaration incompréhensible aux yeux de tous, y compris au mien, un interminable temps mort.
J'adore ça. Alors il faut savoir, peut-être pour vous éclairer, parce que tout ça est très, très franchouillard, très, très parisien même. Bon, Trappes en étant banlieue qu'on pourrait qualifier éventuellement de défavorisée, alors le pote est partout, et Boulogne, eh ben c'est l'ouest de Paris, c'est pas loin de la porte de Saint-Cloud, et il y a le fameux bois de Boulogne, et là on y retrouve énormément de péripatéticiennes qui, le soir, ben, attendent le client. Alors c'est pour ça que la fille lui répond, mais toi qui habites à Boulogne, tu pourrais pas me filer une pute? Enfin bon, alors... J'adore ça. On change de sujet complètement, mes amis. L'Armée des Ombres, on en a parlé il y a quelques semaines, lorsque j'ai reçu Lise Dion. Elle avait appelé un de ses personnages, Simone, à la mémoire de Simone Signoret, qui joue Mathilde dans le film L'Armée des Ombres. Mais n'oublions pas qu'au départ, c'est un livre signé Joseph Kessel. Chez Lizzie, on vient d'en sortir une version en livre audio qui est lue par Samuel Labarthe. Alors, un petit résumé, mais très vite fait. On est à Londres en 1943. Joseph Kessel, qui est un conteur inégalable et qui fut quasiment le premier chroniqueur de notre temps, écrit L'Armée des Ombres. L'Armée des Ombres qui n'est pas seulement un chef-d'œuvre de la résistance, mais qui est aussi on dit même que c'est le... C'est le livre, c'est la référence sur la résistance française. Si vous voulez en apprendre sur la résistance française pendant la guerre, c'est le livre qu'il faut lire et c'est le film qu'il faut voir. On y suit le personnage de Philippe Gerbier, chef d'une cellule de résistants, qui reprend d'ailleurs dans le livre des mots qu'on attribue à un certain Gabriel Péri, qui fut une vraie figure marquante de la résistance française, un homme qui fut mis en prison par les Allemands et ils finiront par l'exécuter. Et ce Gabriel Péri a dit, avant de mourir, « Je suis content, nous préparons des lendemains qui chantent. » Kessel, lui, de Londres, comme le général de Gaulle, agit toujours, même de loin, en tant que journaliste et résistant. En 1943, les lendemains ne chantent toujours pas, et c'est lui qui coécrit notamment la chanson des partisans. « Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ?»« Amis, entends-tu l'heure noire des corbeaux sur nos plaines ?» etc., etc. Je vous propose un extrait de la préface de « L'armée des ombres ». On s'aperçoit en les écoutant ces mots à quel point Joseph Kessel a voulu être fidèle à l'abnégation de ces non-soldats de l'ombre, de ces cellules clandestines en France.
La France n'a plus de pain, de vin, de feu. Mais surtout, elle n'a plus de loi. La désobéissance civique, la rébellion individuelle ou organisée sont devenues devoirs envers la patrie. Le héros national, c'est le clandestin, c'est l'homme dans l'illégalité. Plus rien n'est valable de l'ordre imposé par l'ennemi et par le maréchal. Plus rien ne compte, plus rien n'est vrai. On change de domicile, de nom, chaque jour. Des fonctionnaires, des policiers aident les insoumis. On trouve des complices jusque dans les ministères. Prison, évasion, torture, attentats, coups de main, on meurt et on tue avec naturel. La France vivante, saignante, est toute dans les profondeurs. C'est vers l'ombre qu'elle tourne son visage inconnu et vrai. Peuple qui, dans les catacombes de la révolte, forme sa lumière et trouve sa propre loi. Jamais la France n'a fait guerre plus haute et plus belle que celle des caves où s'impriment ses journaux libres, des terrains nocturnes et des criques secrètes où elle reçoit ses amis libres et d'où partent ses enfants libres, des cellules de torture où malgré les tenailles, les épingles rougies au feu et les os broyés, des Français meurent en hommes libres. Tout ce qu'on va lire ici a été vécu par des gens de France. Mon seul souhait est de ne pas avoir rendu avec trop d'infidélité leur image.
Magnifique lecture de Samuel Labarthe de L'armée des ombres de Joseph Kessel. Sachez, là, j'ai deux bonnes nouvelles. D'abord, on va retrouver la semaine prochaine Gérald Cousineau, chroniqueur non-voyant qui dévore des livres audio, je ne sais pas, 3, 4, 5 par semaine. Je lui ai demandé de se replonger dans la version audio de L'armée des ombres. Il va nous en parler la semaine prochaine ainsi que d'un autre bouquin. Ça, c'est pour la seconde bonne nouvelle. Puisqu'on est pendant la guerre, restons-y brièvement avec un Ken Follett, L'arme à l'œil, lu par Philippe Résimon pour Audiolib. C'est sorti en décembre 2020. On est en 44. Les Allemands s'attendent à un débarquement, mais où ? Les Alliés ont édifié sur la côte au nord de Londres une formidable base où s'entassent entre d'interminables rangées de baraquements. Il y a des chars, il y a des avions, il y a des canon, et tout cela est en toile peinte, tendue sur du bois ou en carton pâte. Il s'agit de faire croire à Hitler que le débarquement se fera dans le Pas-de-Calais, et non en Normandie. La supercherie a l'air de prendre, mais jusqu'à ce qu'un agent ennemi apprenne la vérité. Alors, point de suspension, son nom de code c'est « die Nadel », ça veut dire « l'aiguille » en français, car son arme préférée c'est le stylet et lui risque bien de découvrir le secret qui peut faire échouer toute l'opération. En voici un extrait.
Faber s'arrête à une cabine téléphonique et compose le numéro de la cabine du Square. Il attend la communication quelques minutes. Enfin, une voix profonde lance.
« Allô ?»«
Quel est le chapitre du jour ?» interroge Faber.
Premier livre des rois, verset 13.
Tout à fait édifiant.
Oui, n'est-ce pas?
L'imbécile n'a aucune idée de la situation dans laquelle il se trouve, songe Faber. Alors, demande-t-il?
Il faut que je vous voie.
Impossible,
mais il le faut. »
Il a dans la voix un accent proche du désespoir, se dit Faber.
« Le message vient vraiment du sommet. Comprenez-vous ?»
Faber semble hésiter. « Bon, très bien alors. Je vous verrai dans une semaine, jour pour jour, sous le portail de la gare d'Houston à 9h du matin. »
De plus en plus, je remarque dans les livres audio, on améliore le produit. C'est pas, je remarque, il y a encore quelques années, là, on n'aurait pas fait cette espèce de voix trafiquée comme si la personne parle d'une cabine téléphonique. Moi, je trouve que ça amène un petit quelque chose, un petit plus qui nous accroche l'oreille. Qu'en pensez-vous, vous? Ça me ferait plaisir parfois de vous lire et de vous entendre. Vous savez que sur le site de Canal M, vous pouvez toujours envoyer vos commentaires qui me parviennent régulièrement et que je me fais un plaisir de lire. On s'en va en chanson et juste après, je vous retrouve pour les 200 ans d'un certain Gustave Flaubert.
Reprendre au début, reboire le vin que l'on avait bu. Moi j'aimerais que l'on se rendorme dans un lit à mémoire de fort et que l'on se réveille pareil. Est-ce qu'on peut reprendre mine de rien? Comme à la page cornée du bouquin qu'on avait refermé la veille en luttant contre le sommeil. Est-ce que jusqu'au mot fin on tient? Je sais bien l'existence suit le même unique sens que l'eau. Mais referais-tu ce baiser, offert autant que voler tantôt? Est-ce qu'on peut reprendre à la source? Poser les pierres qui changent sa course, inonder un nouveau décor, va savoir ce qui peut éclore, des plantes au bord du fleuve, toutes neuves. Je sais l'incandescence des cœurs et par essence fragiles. Mais referais-tu ce baiser, offert autant que voler fébrile? Est-ce qu'on peut reprendre au début? Est-ce qu'on peut reprendre au début?
J'aime tellement ça, Jean-Sébastien, quand tu me fais découvrir une chanson que je n'aime pas. Il y en a beaucoup que je ne connais pas, hein. C'est pas de la prétention. Il y en a plein que je ne connais pas. Je connais Renan Luce, qu'on vient d'entendre, mais je ne connaissais pas cette chanson au début qui est tirée de l'album qui s'appelle Renan Luce, 2019. Merci, Jean-Sébastien, la liberté de m'avoir fait ce beau cadeau. J'espère que ça vous a plu aussi. Alors, les 200 ans de Flaubert. Flaubert 21. En Normandie, ça va être pendant plusieurs mois. J'espère peut-être que je pourrai aller y faire un tour. d'ici à l'automne prochain. Ça me surprendrait, mais enfin, rêvons. C'est au cinéma, c'est sur les routes normandes, les routes et les villes normandes, dans les musées, dans les restaurants. On va se souvenir que Gustave Flaubert est né à Rouen en 1821. Il a passé son enfance à l'Hôtel Dieu de Rouen. Pourquoi ? Bah parce que son père était chirurgien-chef de l'Hôtel Dieu. Il s'est ensuite installé à Croisset, sur les bords de la Seine, et il partage son temps entre la Normandie, ses voyages et des séjours réguliers qu'il fait à Paris. Entre Rouen et Paris, il n'y a guère que 130 kilomètres. C'est en 1857 que Madame Bovary a rendu célèbre Flaubert. Le roman a été très critiqué à sa publication, mais finalement, il invente et il impose par son style novateur et par cette figure, ce personnage féminin, Emma, cette nouvelle manière de se rendre compte du monde. Ernest Hemingway, qui n'était pas un tendre, livrait en 1935 sa liste de 17 chefs-d'œuvre qu'il préférerait relire pour la première fois que, écoutez bien, d'avoir un revenu fixe $1 million par an. Ça, c'est avoir envie de relire un bouquin, les amis. Eh bien, il y a parmi eux Madame Bovary. Flaubert est mort à Croisset, près de Rouen, sur les bords de la Seine, en 1880. Il s'avère que la porte-parole de l'événement, Flaubert 21, sera nul autre qu'Isabelle Huppert, qu'on n'a pas oublié dans le rôle d'Emma. Emma Bovary, film de Claude Chabrol, directement inspiré, bien sûr, de l'œuvre de Flaubert. Alors, j'ai pour vous, là maintenant, en MP3, j'ai un extrait de Madame Bovary. C'est une production Sixth Street, ça a été fait en 2011 et c'est lu par Alain Laurence. Et à la suite de cet extrait, Madame Bovary, quelques citations tout à fait flaubertiennes ou flaubertiennes qui sont également disponibles en livre audio si cela vous intéresse. Et c'est lu par la voix profonde de Nicolas Plancher.
« Levez-vous, reprit le professeur, et dites-moi votre nom. » Le nouveau articula d'une voix bredouillante un nom inintelligible. « Répétez !» Le même bredouillement de syllabes se fit entendre, couvert par les huées de la classe. « Plus haut !» cria le maître, « plus haut !» Le nouveau, prenant alors une résolution extrême, ouvrit une bouche démesurée et lança à plein poumon, comme pour appeler quelqu'un, ce mot, « Charbovary ». Ce fut un vacarme qui s'élança d'un bond, monta en crescendo avec des éclats de voix aigus. On hurlait, on aboyait, on trépignait, on répétait « Charbovary, Charbovary !» puis qui roula en notes isolées, se calmant à grand-peine, et parfois qui reprenait tout à coup sur la ligne d'un banc, où saillissait encore, çà et là, comme un pétard mal éteint, quelque rire étouffé. Et le professeur, parvenu à saisir le nom de Charles Bovary, se l'étant fait dicter, épeler et relire, commanda tout de suite au pauvre diable d'aller s'asseoir sur le banc de paresse, au pied de la chaire.
« Faites-moi des grimaces dans le dos tant que vous voudrez. Mon cul vous contemple. » La manière la plus profonde de sentir quelque chose est d'en souffrir. Le meilleur de la vie se passe à dire « Il est trop tôt, puis il est trop tard. C'est quelque chose le rire. C'est le dédain et la compréhension mêlés, et en somme, la plus haute manière de voir la vie. Il faut, si l'on veut vivre, renoncer à avoir une idée nette de quoi que ce soit. L'humanité est ainsi, il ne s'agit pas de la changer, mais de la connaître.
Oui, l'humanité est ainsi, Il ne faut pas la changer, il faut la connaître. Voilà donc des mots de Gustave Flaubert. À l'occasion, je reviendrai sur ces classiques-là. Et puis, faut-il vous préciser qu'évidemment, il n'y a plus de droits en ce qui concerne. Les droits sont complètement libérés. Et donc, il y a une foule de sites audio qui nous présentent des livres de ces grands-là. Et c'est absolument gratuit. Je m'adresse là aussi aux personnes non-voyantes qui font beaucoup appel à CAEB, au SQLA ou à l'association Valentin Huy en France. Tous ces Flaubert-là, bon, sont-ils toujours bien lus? Je ne sais pas. Mais de toute façon, la lecture peut plaire à l'un et peut ne pas plaire à l'autre. Tout ça est très subjectif, mais en tout cas, c'est tout à fait disponible. C'est vrai pour Flaubert, mais c'est vrai aussi, entre autres, pour Guy de Maupassant, dont on va parler maintenant. Si vous êtes des fidèles de cette émission « Des livres pleins les oreilles », que vous nous écoutiez en balado à CKVL ou à Canal M, si vous êtes aussi des habitués de notre catalogue Vues et Voix, vous savez qu'il y a une voix importante qui s'élève régulièrement, non seulement dans notre catalogue, mais aussi en Normandie, dont il est aussi originaire. C'est celle de Mathieu Farcy. Mathieu Farcy, narrateur de métier, qui nous régale les oreilles de cette voix de velours qu'il sait manier incroyablement comme nul autre. Mathieu Farcy, donc, est de Rouen, comme Flaubert, et comme Monsieur de Maupassant, qui n'était pas né d'ailleurs, je crois, à Rouen, mais qui adorait la Normandie, et à qui Mathieu Farcy rend un bel hommage par la lecture que Maupassant a écrit. Il a écrit, Maupassant, des contes et des nouvelles fantastiques. Et Mathieu Farcy a décidé d'en lire quelques-uns ou quelques-unes de ses contes et nouvelles. Et il a décidé de vous en faire profiter ici à Montréal en les distribuant, en les faisant distribuer par le catalogue Vues et Voix. Alors, j'avais envie de vous faire entendre un extrait de ce travail remarquable que fait Mathieu lorsqu'il a enregistré ce livre, en plus dans un lieu tout à fait charmant, un hôtel normand, un hôtel sur les bords de la Manche qui s'appelle Saint-Valery-en-Caux, où votre humble animatrice allait acheter ses pâtisseries le dimanche quand elle était petite. Voici Mathieu Farcy, pardon, lisant un très court extrait d'un conte fantastique de Guy de Maupassant.
Tout à coup, la porte s'ouvre toute grande et un de mes bons amis d'enfance entre comme un ouragan. « Devinez d'où je viens », s'écrie-t-il aussitôt. « Je parie pour ma bille », répond l'un. « Non, tu es trop gai. Tu viens d'emprunter de l'argent, d'enterrer ton oncle ou de mettre ta montre chez ma tante », répond un autre. « Tu viens de te griser », riposte un troisième, « et comme tu as senti le punch chez lui, tu es monté pour recommencer. Vous n'y êtes point. Je viens de P, en Normandie, où j'ai été passé 8 jours et d'où je rapporte un grand criminel de mes amis que je vous demande la permission de vous présenter. » À ces mots, il tira de sa poche une main décorchée. Cette main était affreuse, noire, sèche, très longue et comme crispée. Les muscles d'une force extraordinaire étaient retenus à l'intérieur et à l'extérieur par une lanière de peau parcheminée. Les ongles jaunes, étroits, étaient restés au bout des doigts. Tout cela sentait le scélérat d'une lieue. « Mais que vas-tu faire de cette horreur ?» nous écriâmes-nous. « Eh parbleu, j'en ferai mon bouton de sonnette pour effrayer mes créanciers. »
Quelle voix il a, Mathieu Farcy. Belle articulation, c'est clair. Il nous accroche, on a envie. On l'écoute, tu sais, on est vraiment accroché à cette bouche, à ces mots qui en sortent. Bravo, Mathieu Farcy, vraiment, lisant du Guy de Maupassant. Je rappelle que c'est à notre catalogue. Et yeah, je suis contente pour une fois. J'ai le temps de repasser avec vous tous les livres dont il a été question et de voir où vous pouvez vous les procurer. Alors, de Guylaine Gay, Deux garçons à la mer, vous pouvez vous procurer ça en version lue par Guylaine Gay sur les catalogues de Vues et Voix, mais ça existe aussi en version accessible via le SQLA. Vous pouvez vous procurer le livre La question qui tue de Sophia Aram. J'aime bien vous présenter la maison de production. Il y a d'autres plateformes de distribution très célèbres, très très célèbre, si vous voyez ce que je veux dire, qui vous propose tous ces livres-là. J'aime mieux, moi, qu'on aille peut-être directement à la source. Alors, chez Gallimard, Écoutez lire, vous pouvez vous procurer La question qui tue de Sophia Aram. Chez Lizzie, L-I-2-Z-I-E, vous pouvez vous procurer L'armée des ombres, lu par Samuel Labarthe et dont viendra nous parler Gérald Cousineau la semaine prochaine. Et vous pouvez vous procurer chez Audiolib L'arme à l'œil de Ken Follett, lu par Philippe Résimon. Également, donc, toute l'œuvre de Flaubert se retrouve en version accessible, gratuite, sur toute forme, toutes sortes de plateformes, notamment celle qui s'appelle Littérature française. Vous pouvez aussi écouter du Mathieu Farcy, qui va d'ailleurs participer, je pense, à Flaubert 21 en Normandie cette année. Mathieu, lecteur bien-aimé de notre catalogue de vues et voix et adorateur de Maupassant, lui-même amoureux de la Normandie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous les livres dont il a été question aujourd'hui à l'émission Des livres plein les oreilles. Merci à Guylaine Gay d'avoir accepté mon invitation. Merci à Jean-Sébastien Laliberté de m'avoir épaulé comme il le fait à chaque semaine. Et puis merci à vous d'être là. C'est Clotilde Seille qui vous souhaite une belle semaine et d'heureuses lectures. Et à la semaine prochaine.